Place au journal des Amériques et d'Haïti, présenté aujourd'hui par Adrien Delgrange. Adrien, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, bonjour à tous. De Sao Paulo à Lima, d'Atlanta à Los Angeles. Bienvenue à tous.
RFI.
Nous sommes le 15 juillet à la une de ce journal des Amériques. Sergio Moro, le ministre brésilien de la Justice, au cœur de nombreuses polémiques depuis maintenant plus d'un mois, l'ancien juge anticorruption serait lui-même impliqué dans de nombreuses irrégularités, des ennuis qui le contraignent à se mettre en retrait de la vie politique. La tempête Barry aux États-Unis qui s'éloigne de la Louisiane sans avoir trop fait de dégâts. La Nouvelle-Orléans est notamment épargnée. Dans la revue de presse des Amériques, au sommaire aujourd'hui, Oriane.
Oui, eh bien, nous parlerons beaucoup de la politique d'immigration de Donald Trump entre la campagne d'arrestation des sans-papiers aux États-Unis et la discussion avec le Guatemala pour qu'il devienne un pays tiers pour accueillir des demandeurs d'asile.
Reportage également dans ce journal au Pérou, où des prêtres français ont décidé de consacrer leur vie aux plus démunis. Et puis enfin du tennis, deux nouveaux héros sont nés en Colombie. Juan Sebastián Cabal, Robert Farah, ils ont remporté en double pour la première fois le célèbre tournoi de tennis de Wimbledon.
Radio France Internationale, à Radio Mundial.
L'actualité brésilienne dominée donc par Sergio Moro en pleine tourmente. L'ancien juge héros de l'anticorruption au Brésil décide de prendre des vacances. Le ministre de la Justice du gouvernement de Jair Bolsonaro est inquiété par des révélations qui pointent des irrégularités lorsqu'il était juge, notamment dans l'affaire Lava Jato, l'un des grands scandales financiers qui a frappé le pays. Et puis au sujet également de la légalité concernant l'emprisonnement de l'ancien président Lula. Sergio Moro garde pour l'instant le soutien du président Jair Bolsonaro, mais auprès des Brésiliens, l'image du ministre divise la population. À Sao Paulo, reportage Sarah Cozzolino.
Du côté des électeurs de Jair Bolsonaro, le départ en vacances soudain du ministre de la Justice Sergio Moro ne choque pas, bien au contraire.
Tout le monde a droit à des vacances, non? Il a peut-être juste besoin de remettre un peu d'ordre dans sa tête. Moi, je suis en vacances et je ne vois pas pourquoi tout le monde n'aurait pas droit à ça.
Sergio Fernandez est originaire de Curitiba, la ville où Sergio Moro était juge quand il est devenu la figure de l'anticorruption grâce à l'enquête Lava Jato. Il a envoyé derrière les barreaux un grand nombre de dirigeants politique, dont l'ancien président de gauche, Lula. Et c'est justement pour ça que Sergio Fernandez l'admire.
Pour moi, Sergio Moro, c'est le héros du Brésil. Je l'aime beaucoup.
La publication par le site The Intercept de conversations entre l'ancien magistrat et les procureurs de l'opération Lava Jato n'a pas eu beaucoup d'impact sur les soutiens de Sergio Moro. Malgré les révélations de tentatives de manipulation de l'enquête, il reste l'idole d'un grand nombre de Brésiliens. Pour Leandro Tonelli, viscéralement anti-Lula et parti des travailleurs, la fin justifie les moyens.
Je pense que pour combattre la corruption, tout est permis, vraiment tout. Parce que la corruption, c'est le plus grand mal. Elle est responsable de la situation si grave que l'on vit aujourd'hui.
Du côté des électeurs de gauche, la plupart étaient déjà persuadés de l'acharnement du juge sur leur candidat. Pour Gerson Oliveira, qui a suivi toutes les publications du site The Intercept, la pause politique de Sergio Moro n'est qu'une preuve de plus de sa lâcheté.
Avec les révélations, est venu le moment de faire tomber les masques. Donc je pense que s'éloigner à ce moment-là, ça démontre justement qu'il a vraiment honte ou qu'il essaie de sortir de la scène politique dont il a été le principal sujet ces dernières semaines.
Des vacances qui n'ont rien à voir avec l'affaire, selon le porte-parole du gouvernement, mais permettront au ministre de la Justice de se ressourcer. Pour Luli Radfarer, professeur de marketing politique à l'université de Sao Paulo, c'est une très bonne stratégie.
C'est une stratégie très intéressante de Sergio Moro, qui se transforme en figure politique. Il a une image résiduelle forte, qui dure dans le temps. Et le Brésilien moyen est quelqu'un de peu cultivé, qui dit peu et s'informe principalement via la télévision, dont une partie est cooptée par le gouvernement. Donc d'ici un peu plus de 5 jours, une semaine, ce Brésilien n'aura plus toutes les informations pour se replonger dans l'histoire de Sergio Moro et continuera à garder un souvenir de lui comme quelqu'un qui a fait du bien au pays.
La semaine dernière, lors de la finale de la Copa América, Jair Bolsonaro a voulu tester la popularité de son ministre devant les supporters du stade Maracana. Résultat, le public a autant sifflé qu'applaudi les deux hommes. Un geste qui montre que le président a besoin de Sergio Moro, selon Luli Radfarer.
Il a un soutien populaire tellement fort. Il est plus apprécié que le président lui-même. Donc ce à quoi on assiste, c'est une danse politique dans laquelle chacun tente de réduire un peu le pouvoir de son adversaire sans être en mesure de l'attaquer directement. Parce que Sergio Moro détient le genre de pouvoir populaire qui participe à faire élire en politique.
La popularité de Sergio Moro a baissé moins vite que celle du président brésilien ces derniers mois. La semaine dernière, un sondage Datafolia révélait qu'elle était tombée de 7 points en 3 mois. Avec 52% d'opinion favorable, le ministre de la Justice est encore bien au-dessus du gouvernement de Jair Bolsonaro. Sara Cozzolino, Sao Paulo, RFI.
Un dossier américain à réécouter quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr.
RFI. La radio del mundo.
Place à présent à la revue de presse des Américains. Oriane Verdier, bonjour.
Bonjour.
Alors en ce lundi, tout d'abord, la presse américaine se fait l'écho d'un nouveau buzz engendré par une série de tweets signés Donald Trump. Sur la toile, le président américain invite plusieurs parlementaires démocrates à retourner dans leur pays d'origine, Oriane.
Oui, et c'est ainsi que Donald Trump a déclenché la fureur, selon les mots de du Washington Post. Il l'a fait juste avant de se rendre dans son club de golf favori. Le président américain a pris le temps de développer sa pensée en jugeant tellement intéressant de voir les élus progressistes démocrates du Congrès aux États-Unis, la plus grande et la plus puissante nation de la Terre, de voir comment ils jugent notre gouvernement et comment notre gouvernement doit diriger. Le président a également ajouté « Pourquoi ne retourne-t-elle pas dans ces endroits totalement défaillants et infestés par la criminalité dont elles viennent pour aider à les réparer ?»
Alors pour bien comprendre, le milliardaire républicain prenait ainsi position sur des luttes de pouvoir au sein du camp démocrate entre la présidente de la Chambre des représentants, la personne de Nancy Pelosi, et puis de quatre jeunes élus du Congrès dont les familles ont des origines étrangères.
Oui, et finalement, ces tirades sur la toile auront permis de réunir les démocrates de manière rapide et efficace, remarque le Washington Post. En l'espace de quelques heures, tous étaient réunis pour défendre leurs collègues d'une seule et même voix. Nancy Pelosi a d'ailleurs été l'une des premières à réagir en regrettant les commentaires xénophobes du président. En tout cas, pour l'éditorialiste du New York Times, ces tweets sont la preuve que Donald Trump est un raciste enragé. Il n'y a plus de débat à avoir là-dessus. Nous vivons un chapitre noir de l'histoire de notre nation, ajoute Charles Blow. Nous restons ici à regarder alors qu'un président réintroduit le racisme à l'état pur à la Maison-Blanche.
Alors, ces écrits, Oriane, ont mobilisé la scène politique au moment où était également lancé une série d'arrestations pour expulser les immigrés en situation irrégulière sur le territoire américain. L'objectif annoncé par Donald Trump, expulser 2000 sans-papiers.
Oui, des opérations appréhendées de longue date. En prévision de ces opérations, le journal hispanophone new-yorkais El Diario a diffusé les 5 principaux conseils à suivre face à ces raids. Il rappelle notamment leurs droits aux migrants, tels que celui de refuser de présenter une carte d'identité, ou bien le droit également d'être accompagné d'un avocat commis d'office. Finalement, les médias ne rapportent pas d'opérations massives dans le week-end ou dimanche dernier, mais le média Univision relaie les craintes permanentes créées par cette opération. Pour les activistes, le gouvernement de Trump attend uniquement que les conditions soient réunies pour mener à bien ces raids. Mais dans son édito, le Washington Post affirme que tout ça n'est qu'un grand show finalement. Le but pour Donald Trump serait de montrer à son électorat qu'il agit contre l'immigration et de décourager surtout les habitants d'Amérique centrale à entreprendre le grand voyage vers les États-Unis.
Et la question migratoire, toujours à la une de votre revue de presse des Amériques, Oriane, la Cour constitutionnelle au Guatemala a temporairement bloqué hier soir la signature d'un accord avec Washington, un texte qui ferait du Guatemala un pays tiers sûr, un lieu de séjour des demandeurs d'asile aux États-Unis. Alors cet accord soutenu par le président, mais dénoncé par une grande partie de la population et de la classe politique.
Oui, les manifestations se multipliaient samedi à la veille du départ prévu du président aux États-Unis. Le départ de Jimmy Morales a finalement été annulé. La radio guatémaltèque Emisoras Unidas a diffusé une vidéo tournée sur les lieux des manifestations qui donne la parole aux manifestants. On écoute l'une d'elles.
Entre muchas insatisfacciones por las actuaciones del incompetente Jimmy Morales como presidente de la República, hoy estamos manifestando, como digo, entre muchas otras acciones, en contra de la arbitraria decisión de ir a su...
Alors, cette manifestante nous explique qu'ils sont réunis tout d'abord parce qu'ils sont insatisfaits du comportement du président Jimmy Morales, qu'elle estime être totalement incompétent, mais aussi et surtout pour finalement manifester contre la décision arbitraire de Jimmy Morales de passer cet accord avec les États-Unis. Donc je vous le rappelle, hein, c'est un accord qui permettrait au Guatemala de recevoir les demandeurs d'asile qui veulent se rendre aux États-Unis. Les demandeurs d'asile attendraient donc la décision au Guatemala. Mais selon cette manifestante et selon beaucoup de manifestants, le Guatemala n'a pas assez d'argent déjà pour entretenir sa population. Comment alors pourrait-il recevoir des réfugiés? Et recevoir des réfugiés, ça voudrait aussi dire que ce pays deviendrait une prison, en tout cas du point de vue des manifestants, une prison pour des immigrés qui voulaient en réalité aller aux États-Unis.
Et puis juste avant donc de refermer cette revue de presse avec vous, Oriane Verdier, cette belle histoire, retour au pays pour deux joueurs de tennis colombiens, et ils ont été reçus en héros après leur victoire à Wimbledon. Ils ont gagné le tournoi de double.
Oui, exactement. Ils sont arrivés à Cali, leur ville d'origine, et c'est sur des airs de cumbia que Juan Sebastián Cabal et Robert Farah ont été accueillis. C'est ce que raconte en tout cas Publimétro. Les fans célébraient un samedi historique où les deux sportifs ont hissé le drapeau colombien au plus haut de la cathédrale du tennis mondial, continue le quotidien. Ils sont en effet les premiers colombiens a remporté un titre du Grand Chelem en double. La lutte a été longue dans une finale difficile face aux Français Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin. Voilà, merci. Vasselin.
Oriane Verdier pour cette revue de presse des Amériques sur RFI.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Ils sont au Pérou depuis parfois des dizaines d'années. Ils, ce sont des prêtres français attirés par la théologie et le désir de mener une vie de missionnaire auprès des plus pauvres. Ces hommes, aujourd'hui, ont vieilli mais n'ont pas perdu leurs convictions. Ils se réunissent toujours chaque année à Lima et notre correspondant au Pérou, Éric Sanson, a rencontré ces témoins d'une partie de l'histoire péruvienne.
Arrivé au Pérou en 1985, Marcel Rino a été curé dans les quartiers pauvres d'Ate et Vitarte à Lima pendant 10 ans. Après y avoir construit cette église avec le père Hubert Boulanger, il a été rappelé en France par son évêque Monseigneur Lustiger, mais n'a eu de cesse de repartir.
J'avais connu au Pérou un ministère très enthousiasmant et que je ne retrouvais pas en France. Je tapais la porte à mon évêque pour revenir.
Marcel Rino est prêtre du Prado, une association dont la vocation est de partager la vie des plus pauvres. Comme lui, de nombreux hommes d'église français installés au Pérou partagent des convictions progressistes, selon Agnès Friant. Cette femme, qui dirige une ONG dans un quartier pauvre de Lima, aide chaque année à organiser ce qu'elle appelle le Conseil des Sages.
Oui, c'est vraiment à l'image, un petit peu à l'image de l'Église, je pense. Ces gens-là sont venus surtout suite au Vatican II. Et ce sont des gens très progressistes et on voit que le nouveau clergé est beaucoup plus traditionnel. Ça, c'est vraiment frappant. Alors, il y a jusqu'à 60 ans et c'est des gens assez progressistes. Ensuite, il y a un immense vide et vous avez une nouvelle génération de moins de 40 ans. Beaucoup plus traditionnel.
Ces rencontres régulières sont appréciées par les prêtres français qui travaillent aux quatre coins du Pérou et n'ont pas toujours l'occasion de se voir. Marcel Rino.
C'est très important pour moi, l'amitié, premièrement. Et ces gens-là, ils ont un certain âge, mais, dont je fais partie. Mais ils ne sont pas banals. Ils ont fait des grandes choses au Pérou.
Exemple, Jean Dumont, arrivé au Pérou il y a près de 45 ans. Ancien instituteur, devenu prêtre des prisons, il y a rencontré et discuté régulièrement avec des membres de la guérilla maoïste du Sentier Lumineux et du mouvement révolutionnaire Tupac Amaru. Il a vécu le massacre des prisons de 1986, à l'époque du président Alan Garcia.
Les militaires ont fait sauter les murs, la dynamite, et moi dans la nuit j'ai entendu, j'ai dit, ils sont en train de tuer ces jeunes. Alors, le lendemain matin, dans la Garoua de juin, je suis allé vers la prison, c'était un silence de mort.
Les prêtres français du Pérou sont des témoins de l'histoire récente de ce pays. Ils sont cependant de moins en moins nombreux.
On a été beaucoup plus nombreux que ça. On a vieilli. Il n'en arrive plus. Plus beaucoup. la crise des vocations, peut-être un style d'église qui n'attire plus. Tu vois, le nôtre, nous, on a été très... On reste très marqué par la théologie de la libération.
Pour Marcel Rinaud aussi, les temps ont changé.
Cet enthousiasme pour être prêtre Fidei Dono, missionnaire diocésain à l'étranger, cette vague-là est terminée. Il n'y a pas beaucoup de vocations en France. Et le peu qu'il y a, bon, il n'y a pas de la part des jeunes cette décision de partir missionnaire à l'étranger, j'ai l'impression.
Si les prêtres français sont beaucoup moins nombreux qu'avant au Pérou, d'autres laïcs et volontaires sont prêts à prendre le relais, selon Agnès Friant.
La nouveauté sont les volontaires, que ce soit à travers des organismes catholiques, chrétiens ou des organismes laïcs. Et c'est une autre étape de l'histoire, tout simplement.
Conscients de vivre la fin d'une époque et le début d'une autre, les pères français du Pérou ne s'imagineraient pas vivre ailleurs. Les cheveux blancs ou non, après s'être réuni avec ses vieux amis, Marcel Rinaud se dépêche de retourner dans sa paroisse de Santa Anita. Il doit terminer de construire le toit de son église. Éric Sanson, Lima, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Présenté aujourd'hui par Alex Léveillé. Bonjour Alex.
Bonjour Adrien.
Alors avant d'aller avec vous en Martinique, allons en Guadeloupe. On débute avec cette polémique autour de la non-autorisation de certaines coiffures pour des élèves du lycée Bel Air de Bemao.
Effectivement, alors attention, les coupes afro, les tresses ou encore les locks seront interdites à la prochaine rentrée dans ce lycée privé de Guadeloupe. Et depuis que circule l'affiche interdisant ces coiffures, les réactions sont vives sur les réseaux sociaux. Le proviseur du lycée Bel Air, Dominique Ilpense, s'en explique.
Chacun est libre de porter la coiffure qu'il veut, mais dans l'enceinte d'un établissement scolaire, il y a donc un partenariat avec l'extérieur. Nous sommes tenus de prendre en compte des retours qui remontent du terrain. Notre établissement reçoit majoritairement et bientôt exclusivement des étudiants et des élèves qui sont en stage en entreprise. Et nous avons des retours de ces entreprises. Et certaines entreprises peuvent parfois ne pas accepter des stagiaires au motif qu'ils n'ont pas la tenue qui convienne.
Et Rebecca, elle, élève au lycée Bel Air, soutient la position de son établissement.
C'est vrai que maintenant, les choses sont devenues plus exigeantes. Il faut avoir une bonne tenue pour avoir du travail. Maintenant, c'est vrai qu'il faut affirmer son style, mais il faut bien être soigné quand même. Je trouve que les photos ont juste mal été interprétées. Et c'est vrai qu'au début, j'ai pensé que oui, il y avait un problème sur ça. Je devais être plus tolérant. Maintenant que j'ai vu les choses, j'ai entendu même des profs ou des personnes qui travaillent dans le lycée même, mais ils m'ont expliqué et j'ai compris en fait.
Voilà, Dominique Ilpense et Rebecca étaient tous deux au micro de Jackie Massico de Guadeloupe la première. Et les vacances ont bien commencé, certains préfèrent se rendre dans les forêts au lieu des plages. C'est le cas à Absalon, sur les hauteurs de Fort-de-France en Martinique. Claude Gracien de Martinique la première est allé à la rencontre de quelques vacanciers.
On retrouve un peu tous les profils. Il y a par exemple le couple dont on sent qu'il accorde une dimension particulière à ce moment passé à l'extérieur. Il vient...
Parce que justement c'est frais. L'énergie de la forêt, de la rivière, le fait de pouvoir se nettoyer du coup spirituellement. Ouais.
Ben, je me dis qu'on a la chance de pouvoir aller le matin ou l'après-midi à la rivière et à la plage dans la même journée pour varier les contacts avec la nature.
Plus loin, sous un petit carbet, un bébé s'endort dans sa poussette sous les yeux de maman et de papa. Papa qui lui revient tout juste d'une sortie en canyoning. Ils viennent de Bretagne.
J'ai l'habitude de faire des canyons. J'en ai fait en Guadeloupe, en Martinique. Et là, la jungle, ah ouais, c'est beau. C'est tellement beau.
Bah, magnifique.
En fait, cette jeune femme est venue visiter sa belle famille installée ici depuis plusieurs années et qui est enchantée de faire découvrir une nature qu'elle aime côtoyer.
Ce qui est bien ici, c'est la végétation, c'est extraordinaire. C'est la variété, c'est la faune. Et c'est un monde qu'on connaît nulle part ailleurs. Quoi.
Donc je viens régulièrement dans cet endroit. Je suis vraiment amoureuse de la Martinique pour sa nature.
Et par rapport à la plage, c'est mieux?
Oui, l'air je le trouve plus profond, plus sain et on en profite mieux, on respire bien, c'est magnifique, on entend le chant des oiseaux, il y a moins de touristes aussi.
Voilà, bonnes vacances à tous pour ceux qui ont la chance d'y être. Un sujet signé dans Claude Gracien de Martinique, la première, c'est la fin de cette édition. Merci à Diane Conné pour la mise en onde. Excellente journée à tous.
Merci Alex Léveillé. Ainsi se referme ce journal d'Haïti et des Amériques, où vous soyez sur la planète. Merci à vous de l'avoir écouté. Mise en onde, signé Hélène Avril, rédaction en chef Sylvie Noël Mouna Elbana. Demain, même heure, même endroit derrière ce micro, le retour d'Anne Verdaguer.